Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Fermez les yeux. Faites le vide dans votre esprit. Laissez-vous transporter par une émission rare, de par sa qualité et sa densité. Si les biographies radiophoniques pullulent, comme produits à la chaîne dans des grandes usines de son et de voix, certaines rares œuvres touchent presque à l'impossible. Loin des listes de faits, loin des analyses superflues et des interventions a posteriori de pseudo-spécialistes, il y a des documentaires qui semblent tutoyer la vérité. On ne parle bien évidemment pas de vérité absolue. Celui auquel cette émission est consacrée aborrait d'ailleurs ce terme. Car sa vérité ne peut être absolue que dans la négativité la plus profonde. La seule vérité pour lui est celle de la nuit. De plus, la nature hétérogène, subversive, hérétique de ses écrits et de sa vie rend impensable une synthèse de qui fut Georges Bataille. On ne résume pas l'inexplicable, l'impensable. On ne peut ni en 3 heures, ni en 3 ans, représenter pleinement celui dont la vie fut dédiée à l'exploration de l'expérience intérieure. Pourtant, au gré des témoignages fraîchement recueillis et des lectures, une forme de basse continue s'installe, comme si Bataille lui-même impulsait le rythme de cette émission. De ses débuts à son lit de mort, de ses écrits esthétiques à ses récits érotiques les plus extrêmes, c'est une véritable cartographie de l'âme de Georges Bataille qui est proposée par Jacques Munier dans son documentaire « Georges Bataille l'enragé », diffusé pour la première fois le 3 août 1997. Des entretiens avec Madeleine Chapsal, Denis Ollier, Annie Lebrun, Jean-Jacques Pauvert, Michel Suria ou encore Jacques Derrida, entre autres, avec les voix extraites des archives de Georges Bataille, Michel Léris, André Masson, Roger Caillois et Patrick Valberg, dessine les contours non seulement de la vie, mais de l'intériorité si opaque de l'auteur de La Part maudite. Un documentaire radiophonique exceptionnel, donc, et une introduction magistrale à l'œuvre et à la vie de celui qui signa ses récits érotiques du nom de Lord Hoche, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Je dirais volontiers que ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir brouillé les cartes, c'est-à-dire d'avoir associé la façon de rire la plus turbulente et la plus choquante, la plus scandaleuse, avec l'esprit religieux le plus profond.
...1897-1962, Georges Bataille, l'enragé. Le vieil homme qui, en 1961, reçoit Madeleine Chapsal à la bibliothèque d'Orléans pour une interview, est à la fois célèbre et méconnu. Ou, pour le dire comme Nietzsche, clandestin sous un manteau de lumière. Philosophe intempestif, lui aussi, l'un des penseurs les plus originaux et sans doute les plus marquants du XXe siècle, créateur de revues, sinon de mouvements, Georges Bataille est l'auteur d'une œuvre multiple et superbe, véritable bloc d'abîme dont les orgues basaltiques portent des titres chargés de promesses et d'orages et qui nous seraient presque devenus familiers. Histoire de l'œil, l'expérience intérieure, la part maudite, le bleu du ciel, histoire de l'érotisme. Je pense comme une fille enlève sa robe. À l'extrémité de son mouvement, la pensée est l'impudeur, l'obscénité même. Au printemps 61, pour un dernier entretien, un an avant sa mort, Georges Bataille répond aux questions de Madeleine Chapsal.
Je n'ai passé avec lui qu'un après-midi, coupé par une pause. Sa femme est venue dire, ben maintenant il faut que Georges se repose. Et puis, moi j'ai continué à errer dans ce très beau jardin qui ressemblait effectivement à un cloître, le silence de la bibliothèque, où Bataille a vécu ses derniers jours, ses derniers mois. Et puis il fallait bien qu'il vive, et son œuvre ne se vendait pas. Je ne sais pas si elle se vend plus maintenant. elle est beaucoup plus renommée. J'ai été étonnée de voir à quel point toute une couche de jeunes gens, de jeunes étudiants, s'intéresse désormais à Bataille. Parce qu'il y a eu un moment de silence absolu. Mais comme il n'a pas été remplacé, on va voir. Et puis il a tenu à me faire faire le tour de la bibliothèque, des salles de lecture. Et finalement, nous avons abouti sur un banc dans le jardin. Il faisait beau. C'était le printemps, 61. Il a été très simple, très, très attentif, très, très charmeur, très charmant. Il était d'une beauté. C'était un an avant sa mort et il était magnifique. Il aurait pu faire l'acteur, comme on dit. Il avait un costume sombre, une cravate, bien entendu. J'ai pas eu affaire à une espèce de je sais pas, du luberlu.
Ou de satire.
Et encore moins, bien entendu.
Revenons à l'entretien. Vous dites, à propos de cet entretien, que c'était grisant, dérangeant, douloureux. On n'a pas l'impression, lorsqu'on le lit après coup, ou qu'on l'écoute, cet entretien, que c'était le cas. On vous sentait au contraire très recueilli, finalement, dans l'écoute.
Mais j'ai tout de suite perçu qu'il y avait une douleur chez cet homme, qui d'ailleurs est aussi dans sa voix. Est-ce que c'est parce qu'il se sentait arrivé à la fin de sa vie? Est-ce que c'est parce que tout de même il perdait à certains moments la mémoire ou ses capacités, ce qui est toujours une angoisse? Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas vraiment, et je crois que ça c'était fondamental, la reconnaissance qu'il considérait devoir être l'assiette pour son œuvre? Un écrivain sait toujours ce qu'il a fait exactement, l'ampleur que ça a, l'importance et où ça se situe. Mais ce qu'il ne maîtrise pas, c'est sa célébrité présente et quant à la future, il n'en sait rien. Il ne m'a pas tellement parlé de sa mort ce jour-là, mais il était dedans. Donc il y avait quelque chose de douloureux, c'est certain.
Et en même temps de très séduisant.
C'était le charme. Le charme, c'est inné, vous ne maîtrisez pas, vous savez pas trop que vous en faites, mais c'est irrésistible. Il a été très entouré, toujours, par des femmes, et des femmes très belles. Il ne devait pas avoir beaucoup d'efforts à faire.
Madeleine Chapsal, quel est aujourd'hui votre souvenir le plus marquant de cette rencontre?
De la beauté physique de cet homme. Pendant tout le temps que je vous parle, je le revois. Avec ses très beaux cheveux blancs et surtout ses yeux liquides. Ses yeux d'un autre monde, ses yeux de ciel.
Orléans, février 61, entretien avec Madeleine Chapsal.
Évidemment, il y a une question qui se pose toujours lorsqu'on vieillit. Eh bien, il y a là quelque chose qui ne représente mal l'être que je suis devenu, qui est tout de même moins agressif.
Mais c'est bien l'agressivité.
Mais oui, mais bien sûr, mais la vieillesse, ça a beau n'être pas bien. Que faire pour l'éviter? Et je ne ferai pas l'éloge de la vieillesse, je vous assure.
Non.
Ah non. Enfin, ça...
Vous disiez tout à l'heure que c'est gravir une petite montagne.
Oui. C'est peut-être pas très grave, mais... Mais enfin, c'est pas très amusant. Je pense à ma mort, forcément, parce que... on ne peut penser... Ça ne serait pas penser entièrement à la mort... si on ne pensait qu'à la mort des autres. Ce n'est pas avec un souci de ne m'intéresser qu'à moi, mais parce que je pense qu'il faut se mettre en cause soi-même pour arriver au bout de ce que représente la mort.
Seulement, il me semble que la seule chose qu'on puisse connaître, c'est la mort des autres.
C'est vrai, bien sûr. Bien sûr.
C'est donc la seule vraiment inquiétante.
Oui, c'est la... C'est la seule vraiment inquiétante, et c'est pour cela que peut-être il y a un sens privilégié dans le fait d'en rire. Ça ne m'empêche pas, ça ne m'empêche certainement pas d'avoir peur de la mort, à peu près comme tous les autres. Seulement, en plus de ça, j'en ris. C'est-à-dire que d'en avoir peur ne m'empêche tout de même pas d'en rire. C'est-à-dire, si vous voulez, il s'agit bien là de quelque chose de nettement athée. Parce qu'on ne peut pas rire de la mort en présence d'un Dieu qui est un juge. Tandis que, à partir du moment où l'on s'est assuré qu'il n'y avait pas de jugement, qu'il n'y avait pas de Dieu, on peut rire de la mort. Enfin, on s'est assuré.
Oui, j'aimais beaucoup le mot, justement.
Comme on peut. Enfin, comme si je me trompe, c'est tant pis pour moi. Après tout, je prends cela sur moi. Être sûr de... Oui, je n'ai jamais l'impression de me tromper, d'ailleurs. C'est par une espèce d'honnêteté qui survit en moi. Je crois que je me dis toujours que, mon Dieu, une cervelle humaine, ce n'est pas grand-chose, ça peut se tromper. Que faire ? Il faut, à un certain moment, je crois, arriver à résoudre par la légèreté les questions les plus tragiques. Parce que la légèreté n'a pas de sens si elle n'est pas cela.
Réunie par Michel Suria, la correspondance de Georges Bataille révèle une pensée aux prises avec les grandes aventures intellectuelles et artistiques du temps, dans le débat, les affinités ou encore l'amitié. Les lettres de jeunesse témoignent du conflit intérieur suscité par une vocation religieuse précoce. Mais très vite apparaîtront les noms de Michel Léris, André Masson, Pierre Klossowski, les amis de toute une vie dans le siècle, épousant ses élans et ses salves d'avenir comme ses impasses, et qui laisse, pour finir, le vieil homme à son dialogue avec la mort. Michel Suria.
Bataille a traversé de 1955 jusqu'à 1962, et là, la correspondance le rend tout à fait perceptible et de façon assez bouleversante. Bataille a été quand même traversé par la maladie. Et la maladie, là, non pas seulement affecté, l'a diminué. L'artériosclérose cérébrale est une étrange maladie qui, semble-t-il, permet de conserver sur son état une assez entière lucidité. Ce qui ressemble très exactement au type de dégradation auquel Bataille pouvait lui-même s'exposer. Il a pu voir le travail de la mort sur lui-même et il a pu le voir sur son esprit. Il a pu en mesurer les effets. Il semble qu'il s'en soit ouvert à quelques-uns. Les lettres, en tout cas, en portent trace, soit sous la forme de la plainte, simplement « je suis épuisé » ou « j'ai traversé une très mauvaise période ». Ces lettres-là sont innombrables à avoir ce ton. Il s'est ouvert certainement à quelques-uns de dépressions très profondes, de pertes de mémoire très, très réelles. Et il semble que Blanchot est le seul qui a su accompagner cette confidence. Il est certain qu'il ne l'a pas faite à beaucoup, mais parmi ceux auxquels il l'a faite, cette confidence, Blanchot est celui qui accueille, qui l'accueille et qui le fait sien. Et d'une certaine façon, Blanchot parle de lui-même à ce moment-là, de ses propres états dépressifs, de ses propres douleurs, de ses propres incertitudes, de sa solitude aussi très profonde.
Orléans, 28 octobre 1960. Mon cher Michel, je deviens si maladroit, si vague, si fatigué, que je manquais de chercher à t'appeler au téléphone à temps lors de mon dernier passage à Paris. Pourtant, je voudrais absolument te voir. Je le voudrais de la même façon, même si je n'avais pas cette raison particulière. Le retour de Chine d'un de mes amis, m'amène à envisager au moins les conséquences lointaines de l'absurde tentative liée au nom d'Acéphale. Or, tu es de ceux que je me sens tenu de mettre au courant, pour l'essentiel du moins. Je ne songe pas le moins du monde à recommencer, mais je suis obligé de m'apercevoir qu'au fond, il y avait, dans cette entreprise délirante, quelque chose qui n'a pu mourir en dépit de l'éloignement que j'ai ressenti moi-même. Ne crois pas que je déraisonne. Mais si je suis loin de prendre une véritable initiation, reconnais que je ne peux pas non plus me dérober. D'ailleurs, il ne s'agit que de parler, avec quelque sérieux que cela puisse être envisagé. Je me sens là, je vieillis. Mais le passé, si je songe à ce qui nous lie, le passé profond, n'a pas vieilli en moi. Georges.
Michel Suria, quels sont les destinataires les plus fréquents de cette correspondance dans les 10 dernières années?
Dans les 10 dernières années, les correspondances sont pour les amis les mêmes, pour les quelques amis qui ont été les siens et qui resteront, c'est-à-dire évidemment Masson, c'est évidemment Léry, c'est évidemment aussi Queneau. Quelques autres amis d'une génération plus tardive, une génération qui date de la guerre, ce sont des gens comme Lescure, ce sont des gens comme Fardouli Lagrange, ce sont des gens comme Dionis Mascolo, un petit peu Robert Antelme, mais hélas pas assez. Ce sont aussi des collaborateurs, c'est Patrick Valberg et c'est Lo Duca avec lequel il travaille à l'élaboration des larmes des Rosses. Ce sont ses éditeurs avec lesquels il entretient une correspondance nourrie, drôle d'ailleurs, parce qu'elle est vindicative. Les rapports de bataille avec ses éditeurs sont tout sauf des rapports pacifiques. Ses éditeurs sans doute ont eu à se plaindre de lui, non sans raison. Ses retards étaient légendaires. Étrangement, Bataille n'est jamais à la merci de ses éditeurs. C'est lui qui les place constamment dans des situations de devoir consentir au mode du rapport qu'il instaure. De retard, de réclamation d'argent, extraordinairement fréquente chez Bataille. Il y a une trivialité de la vie intellectuelle qu'une certaine sociologie des intellectuels passe régulièrement sous silence. C'est le besoin d'argent. C'était le cas de Bataille, ça a été toute sa vie son cas. Je tenais beaucoup à ce que cet homme qui s'est voulu toute sa vie terre à terre, qui tenait beaucoup à tous les aspects bas de l'existence, je tenais beaucoup à ce que cette correspondance manifestât aussi ce désir, enfin ce besoin dans lequel était Bataille, c'est-à-dire les conditions de la vie d'un intellectuel, et qui sont des conditions extrêmement moyennes. Vous imaginez bien, ses tirages sont très petits, ses ventes extrêmement minces, donc les droits d'auteur qu'il a pu percevoir anémiques, il n'y a pas lieu de s'étonner que celui-ci ait toujours eu besoin d'argent. Donc dans les lettres, il y a aussi beaucoup de cela, c'est un aspect que je ne pouvais pas publier dans sa totalité, parce qu'il y a aussi, les lettres sont innombrables, qui font état de ce besoin, mais j'ai voulu à ce qu'il y en ait un assez grand nombre pour que cela transparaisse.
Puis ça illustre bien la notion de dépense.
Ça l'illustre par le plus petit bout qu'on puisse imaginer, mais c'en est une illustration triviale, oui, une illustration quotidienne.
C'est matérialiste.
Et éminemment matérialiste. Ces lettres témoignent de ce matérialisme conséquent qu'il y a chez Bataille. Il n'a pas fui.
Jean-Jacques Pauvert, l'éditeur et l'ami.
On s'est connus en 1952. Enfin, on s'est vraiment rencontrés. On se connaissait, bien sûr, un petit peu. On se croisait, mais vous savez, il faut bien voir qu'en 1952, 55, 58, jusqu'en 60, Bataille, c'était personne. Ça existait pour, je sais pas, une douzaine de personnes. Ça existait pour la rédaction de critiques, deux, trois personnes dans les milieux littéraires. Puis c'est tout. C'était quand Lindon a racheté, quand il a racheté les éditions de Minuit, c'était en 52 ou 3 ou 4, quelque chose comme ça. Et il y avait donc des stocks. Et il y avait des livres de bataille. La part maudite, des choses comme ça. Et la part maudite, c'était un stock complètement mort. Personne n'achetait la part maudite. Personne n'achetait l'ABC, personne, c'était invendable, personne ne savait qui était Bataille. Ça n'existait pas, en librairie, il n'y en avait pas. J'ai fait une expérience, on a fait une expérience de diffusion ensemble avec Lindon. On s'est rappelé ça, l'autre jour on s'est rencontrés là, à 50 mètres d'ici, on s'est rappelé ça. On avait loué ensemble, en 1955, une camionnette, et on avait collé un malheureux type dedans, qui est parti sur les routes visiter les libraires. Alors, pour Lindon, il avait donc, il parlait même pas des livres de bataille au libraire. C'était, il serait fait flanquer à la porte. Déjà, il était mal reçu parce qu'il avait des robes grillées des Claude Simon, qui étaient invendables. Faut voir que c'était invendable. Il en vendait 250 chaque fois. Alors, moi, je vendais un peu plus de livres, mais enfin, c'était quand même Histoire d'eau, c'était très mal vu. J'avais Les Bonnes de Genet, ça disait rien à personne. Et Le Voleur de Darien, des trucs comme ça, Melmotte. Donc on a arrêté l'expérience au bout d'un mois. On a réussi à revendre la camionnette. Je dis, Bataille, à l'époque, était complètement inconnu.
Et encore davantage, celui que vous connaissiez, vous, puisqu'il écrivait sous pseudonyme.
Oui, enfin, tout le monde savait que c'était lui, l'histoire de l'œil. Enfin, tout le monde, les gens qui le connaissaient, c'est-à-dire encore une fois, une douzaine de personnes. Savait que c'était lui l'histoire de l'œil, et on s'est connus, enfin on s'est mis à se fréquenter plus à cause de l'histoire de l'œil, justement, parce que bon, tout le monde savait que c'était lui, mais enfin il voulait pas le reconnaître. Alors j'ai fait comme j'avais fait pour le Comte d'Irène, j'ai publié l'histoire de l'œil. Alors il est venu me voir très gentiment, en me disant quand même, c'est moi l'auteur. J'ai dit oui, mais vous le signez ou vous le signez pas? Ben non, vous comprenez, il était conservateur à l'époque. Je crois qu'il était déjà conservateur à la bibliothèque d'Orléans. Il me dit, je ne peux pas le signer. Il dit, bon, ben, un auteur qui ne signe pas son livre, finalement, je lui ai donné quand même des droits d'auteur, parce que c'est pour ça qu'il venait me voir, bien sûr.
Et pour Madame Edouarda, donc, que vous avez également publié sous, réédité, en somme, en 56, sous sa signature de Pierre Angélique, il a écrit une préface.
Oui, voilà.
Mais signé Georges Bataille. Voilà. Oui.
Ben, je lui avais demandé parce que...
Drôle de schizophrénie, quand même.
Non, il ne pouvait pas. C'est vrai qu'il ne pouvait réellement pas signer Madame Edouarda. Vous savez, à l'époque, un texte comme Madame Edouarda, c'était effectivement, quand on occupait des fonctions tout de même administratives officielles, c'était un coup à se faire virer. Donc il pouvait pas, mais il avait envie de faire quelque chose, et je lui ai dit, faites donc une préface que vous signerez Georges Bataille. Ce qu'il a fait, il était content, en disant oui, c'est un peu compromettant, mais tout de même.
La sous-maîtresse prit mon argent, je me levai et suivis Madame Edouarda, dont la nudité tranquille traversa la salle. Mais le simple passage au milieu des tables bondées de filles et de clients, ce rite grossier de la dame qui monte suivie de l'homme qui lui fera l'amour, ne fut à ce moment pour moi qu'une hallucinante solennité. Les talons de Madame Edouarda sur le sol carrelé, le déhanchement de ce long corps obscène, l'âcre odeur de femme qui jouit, humée par moi, de ce corps blanc, Madame Edouarda s'en allait devant moi, dans des nuées. L'indifférence tumultueuse de la salle à son bonheur, à la gravité mesurée de ses pas, était consécration royale et tête fleurie. La mort elle-même était de la fête. En ceci que la nudité du bordel appelle le couteau du boucher.
Vous avez un peu défini cet érotisme comme donc appartenant à cette tradition de l'érotisme chrétien,
oui.
Mais il se rattache également à une autre...
L'érotisme chrétien coupable, hein, parce oui. qu'il y a un érotisme chrétien très, très joyeux, oui. très sacrilège. Et lui, pour lui, hein, ce qu'il appelait la transgression, c'était toujours... à cause du péché, c'était il n'y a pas de plaisir s'il n'y a pas de péché. Alors la transgression, finalement, qu'est-ce que c'est que la transgression? C'est la transgression d'une morale commune, finalement. Une morale chrétienne, une morale religieuse. La transgression en soi, à mon avis, ça n'existe pas beaucoup. Donc c'était, on avait des grandes discussions, effectivement, là-dessus. Parce qu'on s'aimait bien, c'était quelqu'un... moi, ça me... ces histoires de curé, ça, moi, ça me touchait pas beaucoup. Et il comprenait pas bien. Il me disait, mais vous n'avez eu aucune éducation religieuse. J'ai aucune. Donc pour moi, ça n'existait absolument pas. Alors après, on s'est séparés sur des tas d'autres choses à cause de ça. Parce que par exemple, Sade, tout ce qu'il a dit de Sade, à mon avis... Je ne veux pas employer des formules trop brutales, mais ça ne tient pas beaucoup debout. Hein. Le Sade de Bataille, c'est son Sade. C'est Sade vu par Bataille. C'est un Sade qui combat Dieu parce que, dans le fond, il croit en Dieu. C'est aussi le truc de Klosowski. Ça ne tient pas en l'air. Hein. Pour Sade, ça, tout simplement, ça n'existait pas. C'était un moyen, par contre, d'agir sur les autres. Dans le fond... Ce qu'il avait de commun avec Sade, c'était ce qu'Annie Lebrun a relevé dans son bloc d'abîme, Sade, qui est que Sade n'a pas de pensée. J'irais jusqu'à dire que Bataille n'avait pas de pensée non plus. Il avait une façon de penser, c'est-à-dire une espèce de mécanique à moudre les choses et qui passait par une façon de penser. Mais la cohérence, c'est que c'était lui. Comme chez Sade, il n'y a pas de philosophie de Sade. Il n'y a pas de pensée de Sade. Il y a une façon de penser qui aborde les choses comme ça d'une manière extraordinairement personnelle et qui...
Pour chez Bataille, c'est une façon de penser, mais je dirais c'est une façon de penser...
Annie Lebrun.
Hagarde et aveugle. Mais qui lui permettent de voir beaucoup plus loin que quiconque d'autre. Et ça qui est tout à fait paradoxal. Et ce qu'il y a aussi, c'est que, en général, les gens qui se sont occupés de Bataille, à mon avis, n'ont pas vu assez ça, n'ont pas vu cette dimension passionnelle de Bataille qui fait qu'il y a quelque chose de visionnaire, mais qui n'est pas d'ordre intellectuel. Et c'est très curieux, c'est comme s'il y avait deux sortes de fonctionnement chez Bataille, qu'il y a une sorte d'échauffement théorique, il y a un mode discursif qui n'est que le terreau d'où peuvent jaillir des éclairs qui vont tout d'un coup illuminer des pans de réalité. Et ça, bon, ça, c'est ce qui se produit dans... Donc, certaines fois à propos de ça, aussi dans certains articles de documents, aussi dans un texte comme dans des textes courts aussi comme l'anus solaire, et après aussi dans toute la période de critique, comme s'il y avait là aussi dans le moment de la période de critique, comme s'il y avait une longueur de texte qui lui convient parfaitement, juste le temps pour que l'étincelle jaillisse. Et
quand vous dites qu'il s'échauffe en raisonnant,
oui, oui.
L'échauffement, c'est aussi un mot qui fait penser à Sade.
Oui, complètement. Complètement, il y a cette utilisation du discours théorique, encore que chez Sade, ce soit beaucoup plus évident, et même il y a quelque chose de conscient. On le voit, on voit le trouble monter dans la pensée chez Sade. Il y a une transparence extraordinaire. C'est vraiment comme si on voyait, on voit monter ça. Alors que chez Sade, chez Bataille, on ne le voit pas. On ne le voit pas et tout d'un coup, ça apparaît. Et C'est effectivement une façon de penser, mais qui ne maîtrise absolument pas, alors que j'ai, contrairement à ce qu'il dit, on a bien l'impression que Sade maîtrise ça. Même il le pense en même temps qu'il le vit. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça ne l'empêche absolument pas, cette sorte d'activité théorique démesurée, presque incontinente, hein, on pourrait dire, parce que quand on voit les 12 volumes ou les 13 volumes, forcément, c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté d'écrire. Est-ce qu'il n'a pas empêché, par exemple sur Sade, et aussi dans bien d'autres domaines, de dire des choses fondamentales, et par exemple sur Sade, de dire des choses qu'il est le seul, et de loin le seul, à avoir dit. Et là réside, à mon avis, la grandeur de Bataille. Par exemple, dans la préface à Justine, à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, il y a la fameuse phrase « À louer Sade, nous édulcorons sa pensée ». Et c'est là un des... Il a tout à fait raison, et c'est là justement un des points fondamentaux qui est à l'origine de la polémique de Bataille avec le surréalisme, et je crois non sans raison, parce que Bataille reproche au surréalisme des années 30 de faire de Sade une sorte de saint, et en même temps d'arriver à cette exaltation autour de Sade sans voir qu'il y a chez Sade un souci implacable de tirer toutes les conséquences de son athéisme. Et bon, sa Bataille ne le dit pas, mais ce qui est vrai, parce que Sade est le seul, dans le fond, est le seul athée à avoir tiré toutes les conséquences de l'athéisme, en mesurant aussi l'extrême danger que représente la liberté dont il se réclame. Et alors, ça entraîne forcément à une sorte de cohérence de pensée, et une cohérence dans la manière de penser, qui est loin, que certainement sont loin d'avoir eu, par exemple, les surréalistes sur la question amoureuse. Et de ce point de vue, d'une certaine façon, Bataille a raison. Et puis il y a aussi cette... alors, concernant les 120 journées de Sodome, c'est quand même sûrement un de ceux qui a le mieux vu de quoi il s'agit, et qui a cette vue saisissante. Là, je vais reprendre la phrase. Personne, à moins de rester sourd, n'achève les 120 journées que malade, et le plus malade est bien celui que cette lecture énerve sensuellement. Et ça, c'est pas du tout avec le raisonnement, c'est pas du tout en parlant de la philosophie, des idées de Sade, c'est que Bataille arrive à dire si justement ce qui se passe là, c'est parce que il y a cette sorte de sensibilité exacerbée qui est la sienne, et qu'il dissimule souvent derrière justement tout un appareil théorique. Et je pense que c'est là, dans des moments comme ça, qu'il rejoint Sade, parce qu'il parvient à dire, comme lui, ce que le discours logique ne dit pas. Et tout d'un coup, il arrive à rendre possible, quoi qu'il en pense, ce que lui appelle l'impossible.
À André Breton. Aujourd'hui, dans le simple domaine des mœurs, c'est à Sade que s'en prend un admirable crétin, dont les rugissements de lion châtré ont récemment soulevé un orage de rire. Ayant hâte de m'adresser à un lâche comme à un lâche, j'invite ici quiconque sent encore qu'avant tout il a un jet sanglant dans la gorge à cracher avec moi à la figure d'André Breton, du pitre aux yeux clos, accommodant Sade aux secrètes mignardises du surréalisme. Aveugle. Est-il possible, en effet, de provoquer aussi idiotement les éclats de rire et les crachats ? Sade, si l'on s'y tient, n'a effeuillé aucune rose dans aucune prison. Mais quand un homme a poussé l'ignominie jusqu'à décrire avec les plus innombrables minuties ses désirs écœurants, plus effroyables moralement qu'aucune catastrophe possible, il n'y a qu'un jésuite, à la maladresse près, qui puisse introduire la discussion.
Mais par exemple aussi, quand on regarde ces articles de... justement de critique, où curieusement il revient vraiment souvent sur le surréalisme. Alors c'est des textes un peu fous, et c'est ça qu'il y a toujours d'intéressant. Quand c'est des grands textes, c'est des batailles, c'est des textes fous. Mais par exemple, dans ces textes sur le surréalisme, il envoie l'enjeu véritable, comme je crois personne ne l'a vu. Et dans le, par exemple, et dans lequel, alors ça aussi n'en déplaise à beaucoup de gens qui ont pris position pour Bataille contre le surréalisme, mais quand même dans ce surréalisme, Bataille se reconnaît dès lors qu'il y discerne, je cite, le débat de l'être dans la nuit. Et effectivement, c'est à cette aune-là que, à mon avis, le cheminement de Bataille est fascinant, et c'est à cet éclairage-là qu'il rencontre le projet surréaliste. Au point que, par un curieux jeu de miroir, on peut lui attribuer, plus même qu'à quiconque d'autre, eh bien d'avoir participé de ce qu'il dit, lui, de cet arrachement de l'homme à lui-même, avec lequel, à un moment, justement, vers 1946, il confond le surréalisme. Et en écrivant, en matière d'arrachement de l'homme à lui-même, il y a le surréalisme et rien. C'est très étrange comme formulation. Il y a cette révolte de l'être contre ce que Breton a appelé l'inacceptable condition humaine, mais si quelqu'un l'a vécu avec intensité, et essayer de la penser, c'est bien Bataille. La démarche, la façon de penser de Bataille est une de ces très rares pensées, justement par sa révolte fondamentale, une de ces très rares pensées efficientes à arracher l'homme de lui-même, à lui-même.
C'est la rage dont il parle souvent, et d'ailleurs aussi à propos de Sade.
Oui, oui, oui.
Ouais,
oui,
beaucoup.
Oui, oui. C'est de ça dont il s'agit aussi, dans tout ce qui concerne les rapports avec le surréalisme. Quand on relit maintenant les textes au moment du grand affrontement des années 30, on est un petit peu accablé parce que on aurait aimé que et Breton et lui aient quand même d'autres arguments, et en particulier en ce qui... Parce qu'en plus, ça se passe sur l'histoire de Sade. En plus, c'est une histoire fausse, puisque vous savez, c'est Sade qui effeuillait une rose au-dessus d'une fosse à Burin. Tout ça, après, Bataille prend des renseignements. Maurice Hain lui dit que ça est une anecdote qui vient de Victorien Sardou, qui était très hostile à Sade, et que ça vient d'un jardinier de la Salpêtrière, enfin d'un vieux jardinier gâteux, enfin vous voyez. Et tout ça, ils se sont étripés sur cette affaire-là. Bon. Alors ça, c'est...
Sade effeuillant une rose sur
une fosse à Purin. Oui.
Ouais.
Bon. Et alors chacun y allant de ses arguments. Mais en même temps...
C'est dans le langage des fleurs.
Oui, et puis c'est aussi dans le deuxième manifeste du surréalisme. Bon, alors c'est d'une violence extrême. Après, ne parlons pas d'un cadavre et tout ça. Bon. Mais en même temps, alors bon, on peut être consterné, dire quand même. Mais d'un autre côté, moi, je suis très... Ça me ravit aussi. Ça me ravit parce que tout d'un coup, on se trouve avec des êtres, et bon, on retrouve la rage dont vous parliez, on se trouve avec des êtres dont, pour lesquels les idées ont une telle importance que on peut en arriver à cette violence-là. Et on ne peut que déplorer aujourd'hui que cette violence-là n'existe pas. Parce que bon, on se trouve devant aussi ce que Rimbaud appelait le combat spirituel, brutal comme une bagarre, non, comme où on s'affronte physiquement. Et là, quand il y va, quand les idées sont portées par cette passion-là, eh bien, quand même, tout se place à un tout autre plan que celui dans lequel on patauge aujourd'hui.
L'amiral cherche une maison à louer. Ahoy, ahoy! Des Admiralsgebildes meines Landes!
J'ai mis le cheval dans l'âme du
serpent.
Mes rapports avec le surréalisme ont été d'une certaine absurdité, mais probablement pas plus que toute ma vie. En tout cas, il nous est arrivé à André Breton et à moi d'avoir d'abord une hostilité réciproque, d'avoir au commencement, en dépit du fait que Breton ne m'a pas toujours... Oui, ça suffit, il ne faut pas compliquer les choses. C'est Breton le premier qui m'a irrité par son hostilité. Mais d'autre part, j'insisterai volontiers sur le fait qu'une de mes difficultés au début de mon hostilité pour le surréalisme était que j'étais beaucoup plus dada que le surréalisme, que les surréalistes. J'étais resté dada alors que le surréalisme était passé à la période surréaliste. Je ne voudrais pas laisser croire que je pense avoir eu raison dans l'ensemble, mais il est certain que pour moi, il faut aller des deux côtés au pire, non pas vers le christianisme, mais vers ce que d'autres que moi appellerais peut-être mysticisme. Pour comprendre cela, il faut immédiatement mettre les pires contrastes. Qu'est-ce que l'on peut imaginer de plus contrasté qu'un monsieur qui s'affirme être dada et qu'un saint comme Saint Jean de la Croix? Tout le monde ne connaît pas la biographie de Saint Jean de la Croix, mais malgré tout, on a quelque peu l'idée qu'il s'agit d'un personnage un peu grave et même de ce qui se fait de mieux dans ce genre-là. C'est un enragé, voilà le côté qu'il a de commun avec les surréalistes. Et en somme, peut-être que l'essentiel du surréalisme, à cet égard, c'est une sorte de rage. Il y a aussi une rage dans Dada. Quand André Breton... Dada parlait de... écrivait « Lâchez vos femmes, lâchez Dada », eh bien, je crois qu'il avait l'idée que pour se satisfaire, il fallait d'abord satisfaire sa rage. Une rage contre l'état de choses existant, une rage contre la vie telle qu'elle est à l'état commun. Pour moi, il est très clair que n'importe comment, quel que soit le genre de société que nous ayons, à la limite, cette rage se retrouvera toujours en un point. Que l'on ne peut pas parvenir à un état de choses tel que l'on puisse l'imaginer venant à bout de cette rage. Il me semble que on peut arriver à avoir dans cette rage une rage indélébile, quelque chose qui survivra à toute possibilité. C'est peut-être d'ailleurs un point par lequel je me suis toujours senti plus ou moins opposé au surréalisme, qui faisait une part plus grande que moi à la possibilité de réforme et de difficile sur ce point-là de parler quand on parle aussi mal que moi. Il faudrait que ce soit précis.
C'est si difficile.
Mon cheval, dröhnt der Brand.
La rue s'enfuit avec mon bagage. La biche,
n'allez pas
un métro, mais le son cinéma à la porte de vous
attendre.
Et dès
le schlaf, des rues, des alte Oberpriester. Und zeigt der Schenkel volle Tastat.
Notre temps, 24 août 70, Roger Caillois.
Je ne sais pas, pour ce qui a attiré Bataille vers le surréalisme, c'est une période antérieure, n'est-ce pas ? Celle qui, chez lui, s'exprime par les articles qu'il a publiés dans la revue Documents. Eh bien, c'est tout l'ensemble de l'effervescence, de rêves, de violence, de délire, qui se trouvait exploité par le surréalisme et qu'il a également, dans laquelle il a donné une large audience dans la revue Documents. Chez moi, c'était un peu, d'une façon, je dois dire, un peu sotte et un peu innocente, c'était l'idée que ça n'était plus de la littérature, que c'était une espèce d'étude phénoménologique de l'imagination. Et je croyais que je n'allais pas trouver chez les surréalistes des écrivains, mais au contraire des gens qui, comme il le disait, voulaient mettre fin à la littérature. Mais ça n'est pas du tout ce que j'ai trouvé, bien entendu, et c'est pourquoi je me suis retiré du groupe pour tenter des explorations dans ce domaine de l'imaginaire et de l'émotionnel pur, et c'est sur ce terrain-là que j'ai rencontré Bataille et que nous nous sommes entendus.
Mercredi matin, 9 octobre 1935. Mon cher Caillois, je tiens à m'excuser d'excès de langage qui me laisse moi-même surpris. Je vous assure que je regrette cela, mais je veux penser que vous oublierez des reproches qui implique d'ailleurs une confiance essentielle. Je dis que je suis surpris parce que, jusqu'aujourd'hui, je n'avais jamais trouvé moyen d'être dans un état fanatique. J'aspirais à cela, mais devant moi, il n'y avait que le vide. Je voudrais que le heurt de nos deux fanatismes, hier, prenne avant tout la valeur d'une rencontre. J'espère aussi maintenant que cette misère nous donnera l'occasion d'éprouver à quel point les choses essentielles dérivent encore du dieu Polémos. Ce que nous avons envisagé en dernier lieu, et qui résulte exactement de la mauvaise tournure de notre conversation, je ne doute plus que ce soit la seule voie. Il faudra aussi que vous compreniez à quel point les deux choses sont nécessaires, car ce que vous envisagez sans une agitation politique extérieure n'aurait pas la force. Pour l'organisation, je ne pense pas qu'une répartition d'après les dénominations suivantes soit impossible. Organisation intérieure, organisation militaire, organisation internationale, commission sociologique, commission économique. Peut-être aussi commission de lutte contre la guerre. Je vous dirai ce que je crois possible de faire sous le nom de commission sociologique, mais il faut bien entendu que vous y réfléchissiez de votre côté d'ici demain jeudi à 9h. Très amicalement à vous, Georges Bataille.
Le ton des lettres est celui de... d'un homme qui agite réellement le souci politique.
C'est l'époque de la critique sociale aussi.
C'est l'époque de la critique sociale, dont il reste très très peu de lettres. C'est l'époque de contre-attaque, dont il reste un certain nombre de lettres que je publie, et puis un certain nombre de lettres qu'on ne peut pas publier, celles à Breton par exemple, qui auraient pourtant été d'un intérêt réel, parce que ce contre-attaque est quand même véritablement le résultat du rapprochement de ces deux hommes. Et puis il y a toutes les lettres qui tournent autour d'Acéphale du Collège de Sociologie. De temps en temps, au milieu de cela, viennent des lettres à caractère privé qui sont un peu l'équivalent de ce qu'est le Bleu du Ciel à contre-attaque. C'est une sorte de déportement, de porte-à-faux. L'une des deux activités nous donne à voir ou à imaginer un homme tout entier requis par l'agitation politique, l'agitation révolutionnaire, ne doutant pas de la nécessité de l'entreprendre et assumant tous les efforts qu'elle impose. Et l'autre nous donne à voir quelqu'un qui a là-dessus la suspicion la plus grande, que son propre attrait pour le son propre attrait de la perte porte à autre chose, à l'abandon, à la...
Oui, il est plus proche de la révolte que de la révolution.
C'est une chose qui est claire et c'est une chose qu'il dit lui-même. Mais même la révolte, il ne semble pas qu'il lui... Enfin, la possibilité de l'émeute, évidemment. L'émeut, si j'ose dire. Mais elle le séduira longtemps et peut-être... en tout cas jusqu'à la guerre, beaucoup. Après, c'est beaucoup moins évident. La révolte, il se fera sans doute assez longtemps la représentation que sa révolte est l'équivalent de... ou tout du moins s'accorde, d'une façon ou de l'autre, à la possibilité d'une révolution. C'est tout du moins ce que ses engagements et ses déclarations politiques donnent à croire. C'est bien évidemment ce que d'autres textes, à caractère plus littéraire, ou certaines lettres, mettent en doute. Je crois qu'il n'a jamais été dupe sur la possibilité que la révolte ni l'émeute puissent satisfaire davantage que la tentation qui est la sienne de tout livrer au feu, de tout livrer à l'incendie, mais c'est pas du même ordre.
Le 6 juin 1939. Mon cher ami, excusez-moi de mon retard. Mon exposé partira de ce principe, que la société gravite autour de noyaux formés par les liens du cœur, ce que je représenterai comme le principe même de l'activité du collège. Parlant ensuite en mon nom personnel, je chercherai à montrer que ces noyaux sont formés par des hommes de la mort, des hommes qui donnent un sens à la mort. Décrivant les diverses attitudes en face de la mort qui ont été dictées aux hommes, je montrerai que seule la joie appartient à l'homme lucide. Enfin, je tenterai d'établir une relation entre les diverses formes du complexe accumulation-dépense et l'attitude envers la mort. Économie de salut égale économie d'accumulation. La joie devant la mort liée à une volonté consciente de dépense, par conséquent entraînant un combat entre les forces de dépense et les forces d'accumulation. Dans l'ensemble, je chercherai à faire ressortir que le problème de la mort est le problème essentiel des hommes. À ce soir, et amicalement à vous, Georges Bataille.
Et puis, il y avait autre chose qui nous réunissait, et c'était l'importance que nous attribuions à ce qu'on appelle aujourd'hui la sociologie, mais qui était dans notre esprit un peu différent. Parce que nous pensions à une sociologie active, nous disions même activiste. C'est-à-dire une sociologie qui n'aurait pas été seulement une étude des sociétés dites primitives, qui n'aurait pas été une anthropologie ou une ethnologie, mais qui était une étude faite avec les moyens scientifiques, les moyens d'investigation rigoureuse de la société dans laquelle nous vivions, et avec l'espoir très net de puiser dans cette science les moyens de modifier la société en question. C'est ce qui nous a rapprochés, Bataille et moi. Nous étions tous les deux également très soupçonneux à l'égard du marxisme, non pas parce que nous n'étions pas, comme on disait alors, des intellectuels révolutionnaires, au contraire, mais parce que nous estimions que le marxisme ne faisait pas une part assez grande aux instincts et aux pulsions passionnelles ou émotionnelles qui se donnent libre cours dans ce que nous appelions tous les deux le sacré, par exemple. Nous étions très frappés tous les deux par les travaux de Marcel Mauss en particulier, et j'y ajoutais, moi, ce que je retirais des cours de Georges Dumézil, dont j'étais l'élève à ce moment-là à l'école pratique des hautes études. Alors c'est le courant sacré, souveraineté, chez lui, la notion de dépense. C'était ce qui m'avait poussé à le rencontrer, à vouloir faire sa connaissance. C'est son article absolument remarquable sur la notion de dépense qu'il avait publié dans un peu de temps auparavant dans la Critique sociale, là où il disait que ça n'était pas seulement l'intérêt qui comptait, c'est-à-dire le gain en argent de l'homme, mais beaucoup plus que la façon dont il gagne, celui dont il dépense et dont il dilapide. D'où un des premiers textes, une des premières préoccupations que nous avons eues quand nous avons fondé le Collège de sociologie, c'est et la théorie de la fête.
Un poème d'opéra de Jean Cocteau dit par l'auteur: la toison d'or, bouclée l'antiquité, la terre roulée l'éternité, plate, bouclée et cannelée, j'imagine l'antiquité, haute du nez, bouclée du pied, lissée de la tête aux pieds. La terre roulée l'éternité, bouclé, l'antiquité, la se bouclée et annelée, annelée et cannelée, elle est boulée, boutonnée, la rose mouillée, vestonnée, boutonnée et déboutonnée, la mer sculptée et contournée, la colonne aux cheveux frisés.
En 1937, Georges Bataille, avec notamment Roger Caillois, Pierre Klossowski, Michel Léris, fonde le Collège de sociologie. L'une des premières conférences qu'il y prononce s'intitule « L'apprenti sorcier ». Denis Ollier.
L'apprenti sorcier, c'est celui qui met en branle des processus dont il ne sait pas où ils le conduiront et il n'est pas exclu qu'il le conduise à sa perte. Ce que le Collège de sociologie, dans le fond, met en place chez Bataille, c'est la transgression du concept hégélien de maîtrise vers quelque chose qui est de l'ordre de la souveraineté. Et chez Bataille, la souveraineté a toujours été définie comme un sacrifice, c'est-à-dire comme une automutilation. Bon, ça se passe, comme vous l'avez dit, à la fin des années 30, hein. Au moment du déclin du Front populaire et de la menace de guerre, de la menace fasciste.
Qui est présente d'ailleurs dans les travaux du collège.
Mais plus le collège avance, plus les réflexions des personnes qui prennent la parole sont inspirées par les événements du jour, par exemple la crise de Munich, et même précédemment par l'Anschluss, par l'invasion de l'Autriche et l'annexation de l'Autriche par Hitler. Donc effectivement, les événements sont de plus en plus présents comme sujet de méditation. Bon, un des événements, par exemple, alors, qui est également présent dans les conversations, est de l'ordre de l'anniversaire. C'est le 150e anniversaire de la Révolution française. Et la promotion, si je peux dire, de Sade comme le véritable héros de la Révolution française. Et autour de l'évocation de la Révolution et de Sade, de ce couple, plusieurs réflexions se mettent en place, dont l'une, à mon avis, illustre bien ce que Bataille entend par sacrifice, et en quoi le sacrifice est le contraire de la maîtrise. Et je pense ici à un très beau texte de Klossowski. Dans le fond, ce que les gens au Collège de sociologie pensent, c'est que la sacralité du roi est produite par sa mise à mort. Et donc, l'opposition traditionnelle, qui est encore, par exemple, l'opposition des monarchistes comme Maurras et des républicains, est une opposition aveugle, hein, car ce que les monarchistes devraient comprendre, c'est que la définition du roi, la sacralité du roi n'est pas liée au fait qu'il porte une couronne, mais au fait que la couronne est une promesse de mort, une promesse d'exécution. Le sacrifice est le véritable sacre du roi. Inversement, donc, les républicains devraient savoir qu'en étant régicides, ils ne sont pas du tout dans un système électoral, ils ne créent pas un système électoral démocratique, mais au contraire, ils créent un système sacrificiel qui est la sacralisation d'une personne monarchique. Et donc, ce que Bataille et ses amis au Collège de sociologie essayent de développer ici, c'est cette logique, je dirais, de la complémentarité de ces deux moitiés qui divisent l'histoire de France depuis 93, et qu'en réalité, n'est-ce pas, le républicain et monarchiste, devraient comprendre qu'ils sont un petit peu comme la loi et la transgression, hein, comme la beauté et la souillure, les deux moments, hein, d'une même opération, qui est fondatrice de l'espace politique.
On voit bien là qu'on est loin de la sociologie au sens scientifique du terme.
Enfin, on est loin. Pas si loin que ça, vous savez.
Au sens étroit, disons.
Au sens étroit. Bataille et ses amis, comme Caillois, par exemple, ne l'inventent pas de but en blanc, de toute pièce. Il doit beaucoup aux études de Durkheim, par exemple, sur la religion primitive, et beaucoup plus proche même de l'un et de l'autre, en particulier de Kaiwa, qui était un de ses disciples préférés. Ce modèle doit beaucoup aux travaux de Dumézil sur la fonction souveraine, n'est-ce pas? Lorsque Dumézil, à travers les figures mythologiques, que ce soit dans la mythologie indienne de Varuna ou dans la mythologie hellénique de Uranos, ce qu'il étudie, c'est des figures de souveraineté, où la souveraineté est produite par la castration, la mise à mort, le sacrifice. La définition du souverain, n'est-ce pas, c'est la mise à mort.
On a beaucoup parlé à propos du collège de sociologie, de rites initiatiques, de sociétés secrètes, etc. Bon, on ne prête qu'aux riches, mais enfin, qu'en est-il exactement, Denis Ollier ?
Oui, alors il y a énormément
autant
de...
qu'on puisse le savoir.
Oui, c'est moins le collège de sociologie proprement dit que...
Acéphale.
Que Acéphale, effectivement, si vous voulez.
Qui est dans le prolongement.
Disons, plutôt que le prolongement, ce sont deux aventures parallèles qui se recoupent en certains points. Pour ma part, malgré, par exemple, ce que Blanchot dira, je pense que ce sont deux entreprises qui portent très très clairement l'empreinte de Bataille. Par exemple, ce lien entre sacrifice et souveraineté est évidemment au cœur de ce qu'on racontait sur l'aventure d'Acéphale. Vous savez, on racontait toujours que c'était une société de conjurés qui avait juré de mettre à mort, de pratiquer un sacrifice. Alors, toutes les anecdotes les plus délirantes ont circulé là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours pensé effectivement qu'il devait y avoir une certaine logique et que si il y avait un sacrifice, dans la logique de Bataille, ça ne pouvait être que lui-même. Dans la mesure où la souveraineté telle qu'il la définit est la grâce du sacrifice, que le souverain n'est souverain que lorsqu'il est mis à mort. Donc c'est le comble de l'automutilation. Il est évident que si jamais Bataille a fantasmé sur le plan biographique, personnel, une situation de ce genre-là, ça ne pouvait être que en jouant le rôle de celui qui était promis au sacrifice, de celui qui voulait avoir, en quelque sorte, la consécration du sacrifice. Et alors, effectivement, diverses indiscrétions récentes des survivants de ces étranges aventures ont révélé, je crois, de manière à peu près certaine aujourd'hui, que effectivement, c'était le contrat était de la mise à mort de Bataille et que les autres conjurés, en fait, n'ont pas voulu. C'était pas que Bataille n'était pas consentant, c'était les bourreaux qui se sont dérobés.